Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'afflux des réfugiés et des migrants désarçonne l'Union européenne. Quand l'Allemagne les accueille à bras ouverts, la Hongrie, mais pas seulement elle, ferme ses frontières. Quand la France, meurtrie par les attentats terroristes, cherche à monter une coalition anti-Daesh, elle se retrouve presque seule. Réfugiés et terroristes posent chacun à leur manière le problème du contrôle de la frontière Schengen. Mais la sécurité, la défense, le renseignement et même l'immigration ne sont pas des compétences européennes. Elles restent des attributs de souveraineté nationale. Cette contradiction profite aux populistes de tout poil. Le repli sur soi est très tendance dans une Europe de plus en plus désorientée. Bonjour Christian Dequen.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po et chercheur au CERI. Le CERI, c'est le centre de recherche de Sciences Po. Nelle Katharina Wissmann, bonjour, guten Tag.
Bonjour, guten Tag.
Vous êtes chercheuse à l'IFRI. L'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. Vous êtes co-auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle L'Allemagne change et qui a été publié aux éditions Septentrion. Nico Bosescu, bonjour, buna ziua.
Bonjour.
Vous êtes moldavo-roumain et chercheur à l'EUISS, c'est l'Institut d'études et de sécurité de l'Union européenne. Et puis à Prague, on rejoint Pavel Fischer. Bonjour, dobrý den.
Dobrý den, bonjour à tous.
Vous êtes ex-ambassadeur de la République tchèque à Paris et vous avez été un très très proche collaborateur du défunt président Václav Havel. Alors Christian Lequen, si je résume la situation, la crise de la dette est loin d'être résolue, la crise de l'euro est pour l'instant contenue, mais à ces deux crises récurrentes vient se superposer une crise des réfugiés qui paraît insoluble et une menace terroriste qui atteint son paroxysme. Depuis sa création, l'Union européenne a-t-elle connu pareil moment de gravité?
Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, quand on s'interroge aujourd'hui sur les défis de l'Union européenne, on se rend compte que ce ne sont plus des défis liés à des crises internes, mais ce sont des défis liés à des crises externes. C'est-à-dire, en gros, c'est le système international qui est en train aujourd'hui de défier l'Union européenne, qui par ailleurs est une spécificité dans ce système international, c'est-à-dire cet espace post-national où on a dépassé un peu les notions de guerre, les notions de souveraineté classique, etc. On se rend compte, finalement, à la lumière de ces crises, que ça reste une exception à l'échelle du monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir à la fois dans la crise des réfugiés et dans la question du terrorisme, que finalement l'Europe est rattrapée par le Moyen-Orient et que de point de vue très concret pour les hommes politiques, pour les acteurs, mais aussi pour nous les analystes, il n'y a pas deux théâtres d'opération qui seraient l'Europe d'un côté, le Moyen-Orient de l'autre. C'est la même chose. C'est très difficile d'ailleurs à faire comprendre aux citoyens. C'est pas facile.
Et notamment tous les citoyens européens ne le perçoivent pas de la même façon. On va évidemment y revenir.
Bien sûr.
Alors avant de poursuivre avec nos invités, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Daniel Renon.
Bonjour Daniel.
Entre les réfugiés, les migrants, des frontières extérieures perméables, l'Europe apparaît désorientée, ne sachant vraiment plus comment aborder cette crise aux formes multiples qui risque de fragiliser l'Union jusqu'à un point de non-retour. Sensation résumée joliment dans un article du Süddeutsche Zeitung qui a pour titre « Union européenne 2015, l'année de la grande érosion ».
Exactement, parce que en ce moment, l'Allemagne est très préoccupée par l'état de l'Europe et par suite l'avenir de l'Europe. En fait, on est d'avis que la crise des réfugiés a été un catalyseur de plusieurs phénomènes qui existaient déjà auparavant. En fait, on s'est rendu compte déjà au moment de la crise grecque qu'il y avait énormément de divergences entre les Européens. Les uns interprétaient la crise comme un danger pour la zone euro, les autres comme un danger pour l'Europe tout entière. Et les ressentiments, on a pu le voir, ont fait florès. Aujourd'hui, la crise des réfugiés montre de nouveaux problèmes et de nouvelles divergences profondes entre les États membres. Et c'est en particulier cette tendance à la renationalisation, cette tendance à répondre aux crises identitaires par des courants politiques identitaires ou régionalistes. Et à côté de ça, un noyau dur de l'Europe qui est de plus en plus désenchanté. Bref, ça fait beaucoup.
Et il y a un pays qui est particulièrement représentatif de cet état d'esprit, c'est la Pologne.
Exactement, la Pologne a une tendance à se renationaliser, qui est particulièrement flagrante, en particulier depuis les élections d'octobre, qui ont amené le parti Droit et Justice des frères Kaczynski, donc dernier des deux survivants Kaczynski. Les dernières élections lui ont donné la majorité absolue, et donc il est reparti sur un programme très nationaliste, qu'on appelle en Allemagne post-nationaliste. C'est-à-dire, c'est après avoir souhaité sortir un petit peu des frontières nationales, on y retourne. Un peu comme en Hongrie, la Pologne est en train de retourner à un discours profondément nationaliste.
Nelle Katharina Wissmann, une illustration des difficultés de l'Europe, c'est peut-être les préoccupations premières divergentes des deux grands pays européens. Quand Angela Merkel peine à gérer l'afflux des réfugiés et réclame une solidarité européenne qui ne se manifeste d'ailleurs pas franchement, François Hollande, de son côté, cherche avant toute chose à mettre en place une coalition anti-Daesh, là encore avec beaucoup de difficultés et tout de même quelques succès. Angela Merkel va envoyer des avions de soutien et de reconnaissance. David Cameron a convaincu son Parlement à intervenir. Enfin, grandes difficultés et des préoccupations différentes entre Berlin et Paris.
Absolument. Enfin, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est justement que face à l'afflux de réfugiés en Allemagne, il y avait très peu de réactions de la France. Enfin, déjà qu'ils reçoivent très peu de réfugiés parce qu'ils ne veulent pas venir en France. Ils se voient plus en Allemagne parce que les dispositifs qu'il y a sur place sont beaucoup plus faciles pour demander l'asile en Allemagne. Puis, manque de solidarité avec la France. Oui, non, parce que normalement, ce matin, le Bundestag va voter à grande majorité justement la mission en Syrie.
Alors effectivement, il y a, je dirais, une certaine solidarité des Allemands à l'égard des Français. L'envoi d'avions au-dessus de la Syrie le prouve. Une plus grande indifférence des Français et des Européens à l'égard des problèmes allemands, à savoir l'afflux massif de réfugiés. Comment c'est ressenti en Allemagne ?
En fait, on est d'une certaine manière choqué et ça se ressent. C'est beaucoup discuté dans la presse justement. Oui, est partie la France, pays grande nation de droits de l'homme. On attend justement de la France cette solidarité. On comprend pas du tout pourquoi il y a aucune réaction face à ce qui se passe actuellement en Allemagne. L'Allemagne qui est complètement dépassée avec la situation des réfugiés, etc. C'est, d'une certaine manière, on se comprend plus, en fait. On comprend pas pourquoi la France agit de cette manière-là. On comprend que la France va intervenir en Syrie. On va soutenir la France. Mais en même temps, on attend peut-être aussi une réaction plus forte de la part de la France.
Alors, Pavel Fischer, à l'est du continent, c'est de grands sujets de crise existentielle qui occupent 24 heures sur 24 les dirigeants allemands, français, belges, grecs et italiens. La liste n'est pas exhaustive. Semble totalement étranger à la Hongrie, à la Pologne, à la Slovaquie, mais aussi à la République tchèque. Là encore, je pourrais rallonger la liste. La réponse de Viktor Orban, le premier ministre hongrois, reprise en cœur par les responsables gouvernementaux des pays d'Europe centrale et orientale, a été « érigeons des barrières, fermons nos frontières et surtout n'accueillons aucun réfugié qu'on assimile assez facilement à des terroristes ». Pavel Fischer, jamais cette cassure entre l'Est et l'Ouest du continent n'a été aussi grande.
La question que vous posez est fondamentale, car elle nous renvoie à nos racines. Dans nos racines, c'est l'hospitalité. Et nous-mêmes, je veux dire les Tchèques, les Slovaques, les Polonais, nous avons trouvé de l'hospitalité lorsqu'il y avait besoin de nous exiler. Et en même temps, nous avons proposé l'hospitalité à ceux qui étaient dans le besoin. Le nombre de réfugiés et de migrants accueillis ici est quand même notable. Ce qui se passe aujourd'hui, je crois, c'est une propulsion d'une peur diffuse qu'il y a une guerre au sud de l'Europe, l'engrenage de guerre à la fois à l'est et au sud, et qu'une réponse stratégique forte de pays européens n'est pas de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut gérer le flux de migrants aujourd'hui au mois de décembre 2015, mais personne ne répond à la question ce qui va advenir dans 5 mois. Et je crois que le manque de posture stratégique de nos pays et de l'Union européenne en particulier aujourd'hui, au moment même où les États-Unis se sont retirés stratégiquement de notre région, c'est quelque chose de très flagrant et peut-être aide à propulser une peur diffuse qui, une partie de l'électorat, pas l'ensemble quand même, il y a des débats à l'intérieur même de nos sociétés, il y avait des démonstrations en Bologne hier soir encore. À Prague, vous avez un président qui dit le contraire de son premier ministre à ce sujet-là. Donc, il y a le débat très vif. Mais je crois que c'est une préoccupation de vacuum stratégique qui se fait sentir.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on vous écoute, Pavel Tchichir, que les Tchèques, pour parler des Tchèques, on pourrait élargir aux autres habitants des pays de l'Europe centrale et orientale, n'avaient jamais imaginé que l'Union européenne pouvait poser quelques problèmes et pouvait nécessiter un minimum de solidarité.
Au contraire, je crois que les gens sont prêts à se solidariser. D'ailleurs, ceux qui suivent le débat en Allemagne et qui sont attachés à une coopération politique avec l'Allemagne étroite sont préoccupés parce qu'il y a un manque d'entente et de compréhension de l'autre côté de la frontière. Il y a vraiment une cassure de perception de nos positions qui sont à l'Est, mais je crois que les préoccupations sont les mêmes. Les gens souhaitent accueillir des migrants. Mais si vous accueillez des migrants ici, ils s'enfuient parce qu'ils souhaitent partir en Suède ou en Allemagne. C'est ça aussi le problème.
C'est vrai qu'effectivement, l'Allemagne a un pouvoir d'attirance très fort. C'est aussi le cas de la Suède. La Suède qui vient de fermer ses frontières, elle aussi. Alors, on va y venir bien sûr. Niko Popescu, tout de même, une des principales caractéristiques de la construction européenne, c'est la solidarité entre les membres. On ne la voit pas vraiment. En tout cas, elle a du mal à se manifester. L'article 42-7, c'est un peu technique, du traité de Lisbonne auquel François Hollande s'est référé, qui permet à un État membre de solliciter l'aide des autres pays de l'Union, les PECO, donc les pays d'Europe centrale et orientale, n'y ont pas répondu, à l'inverse de l'Allemagne et même de la Grande-Bretagne, qui pourtant a une position ambiguë à l'égard de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire que ce désintérêt, c'est un peu comme si les pays d'Europe centrale et orientale se sentaient un peu en dehors de l'Union, qui n'étaient pas concernés?
Je ne crois pas que c'est vraiment le cas. Parce que si je regarde les pays de l'Europe et de l'Union européenne, ce que je vois est que toujours, chaque fois qu'il y a un problème, dès le début, la réponse initiale, c'est manque d'unité. C'est clair parce que tous les États, ils ont des différents instincts, des différentes histoires, des différentes opinions publiques, et que l'Europe et l'Union européenne existent pour gérer et minimiser ce manque d'unité. Alors c'est chaque fois quand il y a un problème, dès le début, il n'y a pas d'unité. Et je crois qu'aujourd'hui, bien sûr, on assiste dans les premières phases d'un nouveau problème très grave, c'est le problème des réfugiés, des guerres, et pendant ces premières phases, c'est normal qu'il n'y a pas d'unité. En plus, même si on regarde ce qui s'est passé les derniers quelques mois, et que vous vous rappelez qu'en mai, la Commission européenne a proposé d'avoir un système de redistribution des migrants, des réfugiés en Europe, et à ce temps-là, tous les pays de l'Europe centrale ont refusé de sous-signer à cette initiative. Vers l'automne, on a eu une moitié des pays de l'Europe centrale qui n'ont pas bloqué ça. Alors, même sur ce problème, l'Europe centrale n'agisse plus comme un groupe commun. Il agit juste comme tous les autres États membres de l'Union européenne qui ne sont pas des alliances fixes sur tous les problèmes. Et en plus, même si vous regardez sur le problème des réfugiés et des quotas, ce qui va se passer dans l'année à venir et que je crois qu'on aura beaucoup plus de solidarité sur la ligne sud versus nord parce que des pays comme Slovénie ou Croatie ou Roumanie ou Grèce ou Espagne sont des pays de transition des réfugiés, ils ont un intérêt de voir plus de redistribution. Et quant au Danemark ou la Suède ou l'Estonie ou le Finlande ou la Lettonie, ils sont pas des pays où il y a un grand transit des réfugiés.
Alors, ils sont plutôt des pays de destination, effectivement.
Oui, ils sont plutôt des pays de destination. Alors, pour moi, même si vous regardez sur la question si les pays vont avoir un intérêt de voir plus de redistribution des réfugiés, pour moi, c'est plutôt possible qu'on aura une alliance plutôt des pays qui sont des pays de transit et les autres pays de destination. Alors, c'est pas vraiment un clivage entre l'Est et l'Ouest au niveau des élites politiques.
Christian Lequel, vous partagez ce point de vue de Niko Popescu. Il y a quand même une cassure entre, effectivement, les pays de destination, mais il y a aussi l'idée d'une relocalisation de ces réfugiés, 160 000, et chaque pays devait en accueillir un certain nombre en fonction de sa richesse et de sa population. Or, prenons le dernier exemple, la Slovaquie, Robert Fico, le premier ministre slovaque, a dit que non seulement il n'accueillerait pas de réfugiés, mais qu'il a tenté un procès à l'Union européenne pour lui imposer ces réfugiés dont il ne veut pas. Ça pose quand même un problème, je serais quand même moins optimiste que ce que vient de dire Niko Popescu. Oui, je dirais que personne n'a tort, d'une certaine manière, dans ce que je viens d'entendre. C'est compliqué. D'un côté, je partage tout à fait ce que Nico Popescu a dit sur le fait qu'il ne faut pas considérer la réaction des pays d'Europe centrale et orientale comme un bloc. C'est-à-dire qu'il y a des nuances dans les positions. Il y a une nuance, par exemple, polonaise, hein, sur l'accueil des réfugiés par rapport aux Slovaques ou par rapport aux Hongrois et aux Tchèques.
Quoique le nouveau gouvernement polonais s'oriente un peu sur les positions de Viktor Orban.
Absolument. Ce qui me paraît très important, c'est ce que Pavel Fischer a dit sur cette perception d'une instabilité au sud dans les sociétés d'Europe centrale qu'on a du mal à comprendre. Et vous voyez derrière ça tout le débat sur l'islam qui serait facteur de déstabilisation, etc. Ça, c'est quand même très très présent dans les sociétés de ces pays, même si, comme Pavel l'a très bien dit, dans l'opinion intellectuelle, il y a, ou même dans les sociétés caritatives, les organisations non gouvernementales, enfin je pense à la République tchèque en particulier, il y a des voix qui s'élèvent. Hein, très 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 fortement, il y a eu une pétition qui a été signée par des intellectuels en République tchèque.
Mais ça ne dépasse pas les intellectuels.
Mais voilà, exactement. Dans la société, je crois qu'il y a quand même un malaise par rapport à cette instabilité au sud et une difficulté à comprendre aujourd'hui véritablement toutes les finesses du rapport entre l'islam et la politique. Faute d'expérience, hein. Faut pas oublier quand même que dans un pays comme la France, l'Allemagne, on a connu l'arrivée de flux de population en provenance du Moyen-Orient, du Maghreb, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la décolonisation. Dans les sociétés d'Europe centrale, c'était pas possible, tout simplement parce que ils étaient de l'autre côté du rideau de fer. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas la même perception.
Fischer, ce que vient de dire Christian Löcken, c'est un élément important pour comprendre l'état d'esprit des pays de l'Europe centrale et orientale. Aucun pays d'Europe centrale l'Oriental n'a été un pays colonisateur. Aucun pays de l'Europe centrale et orientale n'en a connu des flux migratoires au moment de la croissance économique. Est-ce que c'est une part importante? Est-ce que ça explique cette peur de la population qui, effectivement, il suffit de se balader à Prague, à Budapest ou un peu partout à Bratislava, où il y a effectivement une population quasiment exclusivement blanche?
Vous avez raison. Je crois que il y a plusieurs facteurs, je vais en citer peut-être trois. Il y a quelques années, nous avons fait des efforts à faire inviter des dignitaires de la Libye éprouvés par la guerre à ce qu'ils puissent être soignés dans les hôpitaux tchèques. Le rapport qualité-prix excellent, le traitement de première classe, ces gens-là, une fois guéris, sont disparus dans la nature. Et ils ont choisi d'autres pays dans l'Union européenne pour séjourner et pour disparaître des radars. C'est-à-dire que l'attirance d'un pays comme le mien pour les réfugiés, la République tchèque, n'attire pas grand monde. Et les gens ne veulent pas s'installer ici. Deuxième chose, il y a quand même un clivage entre générations, par exemple. Des jeunes s'engagent non seulement à aider les réfugiés dans le pays, mais prennent les voitures et s'engagent par le biais de Facebook pour aider dans les Balkans. Donc il y a beaucoup de volontaires tchèques, des universitaires, des jeunes qui aident à organiser le flux migratoire, à ce qu'il n'y ait pas de choc, de traitement inhumain, voire de surprise, et qui le font sur la base volontaire pour montrer sur le plan politique un désaccord profond avec leur président qui est quand même hostile à l'accueil de réfugiés. Et troisième élément, il ne faut pas non plus dresser un portrait trop élogieux des Tchèques qui n'ont rien vu de ce qui arrive du Sud. Nous avons quand même une tradition de présence au Moyen-Orient qui est remarquée et remarquable. Les spécialistes de l'arabe et de l'islam tchécoslovaque à l'époque étaient bien connus. Donc ce n'est pas par manque de connaissances que nous agissons ainsi. C'est peut-être aussi un questionnement sur le projet du vivre ensemble dans cette Europe qui est quand même rongée par beaucoup de crises. Et ces crises-là nous enferment dans une lecture nationale, linguistique. Relisez les commentaires des journaux grecs en pleine crise de l'euro. C'était pas du tout acceptable sur le plan européen de laisser parler des critiques ainsi. Et je crois qu'il faut réduire, il faut descendre d'un cran après une crise similaire pour nous entendre et pour faire parler nos émotions et nos espoirs, parfois des espoirs aussi gâchés ou perdus, Parce que sinon, on s'enferme dans notre coin linguistique déjà, politique ensuite, et on ne s'entend plus. C'est ça peut-être le rôle, et je suis très heureux que cette émission est tellement ouverte. Merci.
Alors, l'émission est effectivement très européenne, avec une Allemande, un Français, un Roumain, et vous, Pavel Tischer, un Tchèque. Le vivre ensemble est-il en péril en Europe? On aura l'occasion, évidemment, d'en dire forcément un petit mot dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une courte pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. 3 minutes, très exactement, le temps de prendre connaissance des dernières infos, avant de retrouver nos invités et de poursuivre notre débat autour de cette Europe quelque peu déboussolée. A tout de suite.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu d'Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa. The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. L'afflux des réfugiés et des migrants désarçonne l'Union Européenne. Quand l'Allemagne les accueille à bras ouverts, la Hongrie, mais pas seulement elle, ferme ses frontières. Quand la France, meurtrie par les attentats terroristes, cherche à monter une coalition anti-Daesh, elle se retrouve presque seule. Réfugiés et terroristes posent chacun, à leur manière, le problème du contrôle de la frontière Schengen. Mais la sécurité, la défense, le renseignement et même l'immigration ne sont pas des compétences européennes. Elles restent des attributs de souveraineté nationale. Cette contradiction profite aux populistes de tout poil. Le repli sur soi est décidément très tendance dans une Europe de plus en plus désorientée. Je vous représente rapidement nos invités. Christian Le Cayenne, professeur à Sciences Po Paris et chercheur au CERI. Nelle Katharina Wissmann, chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Nicu Popescu, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Et en ligne de Prague, Pavel Tischer, ex-ambassadeur de la République tchèque à Paris et très proche collaborateur du défunt président Václav Havel. Déjà extrêmement réservé sur l'accueil des réfugiés avant les attentats du 13 novembre, la France a depuis durci le ton, notamment parce qu'au moins 2 terroristes ont emprunté la route des Balkans pour venir jusqu'en France, d'où l'importance du sommet organisé dimanche dernier à Bruxelles entre l'Union européenne et la Turquie, un sommet où Ankara est arrivée en position de force, Maria Fonso.
La Turquie est un partenaire incontournable pour retenir les réfugiés loin de l'Union européenne. Ankara le sait, ce qui lui a permis de fixer ses conditions. Selon l'accord conclu dimanche dernier, l'Union européenne versera à la Turquie 3 milliards d'euros d'aide pour financer la prise en charge des réfugiés se trouvant sur son territoire, soit près de 2 millions de réfugiés syriens. La Turquie va aussi obtenir plus de visas pour ses ressortissants et enfin, elle a obtenu la relance des négociations sur son adhésion à l'Union européenne. François Hollande, à l'issue du sommet de l'Union européenne et de la Turquie sur les enjeux migratoires, précise les objectifs de la France.
Pour ce qui concerne la France, l'essentiel était d'obtenir un plan d'action avec la Turquie pour que l'Europe puisse avoir sur la question des réfugiés, sur les nécessaires luttes contre le terrorisme et sur le règlement politique concernant la Syrie, les garanties nécessaires venant de la Turquie. C'est ça l'objectif.
Le ton à Berlin a d'ailleurs aussi changé. L'objectif de l'Allemagne, c'est désormais que la Turquie arrête de laisser partir les réfugiés vers l'Europe. Et sur ce point, la chancelière allemande, Angela Merkel, présente aussi à Bruxelles, est satisfaite. La Turquie, avec cette aide européenne, va pouvoir favoriser le maintien des réfugiés sur son sol, mais aussi lutter avec plus de fermeté contre l'immigration illégale et les passeurs, comme le souligne Angela Merkel.
Une part importante du plan d'action UE-Turquie doit permettre de remplacer la migration illégale par une migration légale et améliorer la situation des migrants en Turquie.
En contrepartie, Ankara a obtenu la réouverture d'un nouveau chapitre des négociations sur son adhésion à l'Union européenne dans l'impasse depuis 2005. Selon le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, ce jour est historique et, je le cite, un nouveau départ dans les relations entre Ankara et les Européens.
Nous avons redynamisé notre processus d'adhésion. Nous avons un accord sur une stratégie intégrée qui permette de lutter contre les déstabilisations de l'Europe et nous allons travailler côte à côte concernant la crise des réfugiés.
Selon le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu, ce jour est historique et, je le cite, marque un nouveau départ dans les relations entre Ankara et les Européens.
Ce retour en force de la Turquie en dit long sur le désarroi européen, et on pourrait dire la même chose de Vladimir Poutine, pilier de la coalition anti-Daesh. Alors quand Angela Merkel appelle au secours Recep Tayyip Erdogan, François Hollande se tourne vers le président russe. Évidemment, personne ne souhaite que la Turquie rejoigne l'Union européenne, et la méfiance des Européens envers Vladimir Poutine reste intacte depuis l'invasion de la Crimée, Christian Lecan.
Oui, c'est pas vraiment Angela Merkel et l'Allemagne va voir Monsieur Erdogan, c'est l'Union européenne qui envoie Angela Merkel, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire Angela Merkel, on l'envoie tout simplement parce que c'est le pays qui accueille le plus de réfugiés, donc on considère dans l'Union européenne que c'est elle qui a le plus de crédibilité pour parler avec Monsieur Erdogan. Alors évidemment, la question de la Turquie est absolument essentielle sur les deux points, Daesh d'un côté, réfugiés de l'autre. Je commence peut-être par les réfugiés. Bon, il faut savoir que la Turquie assume une grande part du fardeau, puisque on estime dans les camps de l'est de la Turquie actuellement à 1 800 000 Syriens présents. Mais la Turquie laissait beaucoup passer aussi les embarcations clandestines vers la Grèce. Voilà, les gardes-côtes turcs auraient pu faire beaucoup mieux. C'était une façon de dire aussi à l'Union européenne, écoutez, vous avez gelé les négociations d'adhésion avec nous, on n'a pas de raison de vous faire...
On vous rappelle notre existence.
Voilà, on vous rappelle notre existence, qui est très important pour M. Erdogan, qui est un leader aimant bien mettre en avant la souveraineté, l'indépendance de la Turquie, etc. Ça, c'est le premier point. Sur Daesh, bon, il y a un jeu effectivement un peu ambigu de la Turquie, qui est lié à une raison très simple, c'est que les Turcs ne veulent pas que les principaux ennemis de Daesh, qui sont les Kurdes, montent trop en puissance, parce qu'ils ont très très peur d'une grande coalition et d'une autonomisation des Kurdes, qui existe déjà en Irak. La région kurde d'Irak est déjà très très autonomisée par rapport à Bagdad, et eux, l'actuel gouvernement AKP, ne souhaite surtout pas que les Kurdes puissent gagner plus de pouvoir politique, en sachant que les dernières élections ont très bien montré, quand on voit la carte électorale de la Turquie, que tout l'est de la Turquie, c'est-à-dire tout ce qui est situé à l'est de la Cappadoce,
a
massivement voté pour le parti kurde.
Alors, tout de même, Christian Lecan, personne ne souhaite que l'Union européenne accueille la Turquie, et personne ne croit sérieusement à Vladimir Poutine dans son intention d'écraser Daesh. Il y a quand même une hypocrisie de chaque côté, et c'est quand même l'Europe qui est en position de faiblesse, qui est allé chercher d'un côté Erdogan et de l'autre côté Poutine.
Mais vous savez, ça arrive très souvent dans l'histoire des démocraties. On est
obligé dans la vie de tous les jours.
On est obligé de faire des compromis avec des gens qu'on estime moins fréquentables. Vous croyez que les libéraux britanniques étaient très heureux de faire alliance avec Staline pour essayer de battre Hitler? Non, certainement pas. Donc, mais simplement, les démocraties sont obligées quand même de mettre des limites à ce qui est acceptable, parce qu'elles ont aussi des valeurs qu'il faut essayer de respecter. Donc là, on voit bien que on essaie de bricoler, finalement, pour essayer de trouver des alliés. S'il y avait une vraie réflexion stratégique européenne et un vrai engagement de ressources au plan européen, on aurait vraisemblablement moins besoin de faire cela. Mais c'est pas le cas.
Nico Popescu, ce bricolage, comme vient de l'expliquer Christian Lecan, c'est l'illustration parfaite des faiblesses européennes. L'Europe n'est pas une puissance militaire, le renseignement n'est pas géré au niveau européen, il reste globalement national. Pour ne prendre que ces deux exemples.
Oui, c'est ça aussi, mais quand même, comme nous tous savons qu'il n'y a pas de solution militaire au problème du terrorisme et au problème de la Syrie, les actions militaires peuvent faire partir d'une solution, mais la solution ne peut être militaire. Alors, dans ce contexte-là, le fait que l'Europe n'est pas une puissance militaire, c'est important, mais ça signifie pas que l'Europe n'est pas un acteur indispensable et inclus dans le problème syrien. Et même si vous regardez la Russie a une approche très militaire à la Syrie sur la question de la guerre en Syrie pour protéger Assad, mais est-ce que cela peut amener à une solution à la crise en Syrie? Pas vraiment. Sans négociation avec les autres groupes en Syrie, sans les Turcs, sans les Saoudiens, sans les Européens. Alors, même si la Russie est très forte du point de vue militaire, ça ne signifie pas qu'elle est forte du point de vue géopolitique ou politique. L'autre chose qui est très importante, il faut Je ne crois pas qu'il faut vraiment regarder tout ce relancement du dialogue russo-européen en tant qu'un moment d'humilité pour l'Europe. Ce que l'Europe fait, elle n'est pas un demandeur à Moscou, c'est une offre de coopération. Si on échange des informations classifiées, si on coopère sur la ligne des services de renseignement, c'est pas parce que c'est juste les Européens qui ont besoin, c'est les Russes qui l'ont besoin aussi. Les Russes ont beaucoup de citoyens russes qui luttent du côté de Daesh. Ils peuvent aussi revenir ici. La Russie a été déjà attaquée avec l'avion de Sinaï. Alors sur ce côté, l'Européen, ils vont aux tables de coopération, sinon une négociation avec les Russes, avec quelque chose de valeur pour les Russes aussi. En plus, on voit sur le plan diplomatique que les Européens sont déjà un peu moins forts sur l'idée de voir Assad partir. Alors, vous pouvez dire que c'est vrai aussi que sur ce côté, les Européens montrent un peu plus d'ouverture pour les priorités russes. Alors, à Moscou, je ne crois pas que M. Hollande ou les Européens sont des demandeurs. C'est une offre de coopération. Les Russes ont besoin, tant que les Européens à lutter contre Daesh, d'une manière coordonnée. Même avec l'incident turc, c'est vraiment dommage le type de machisme politique que les Russes et les Turcs font en Syrie. C'est surtout dommage pour les Syriens. Si on prend un peu de distance de ce sujet, les Turcs ont montré que c'est très facile à limiter la capacité des Russes de projeter du pouvoir militaire là, et que c'est très facile juste par une très petite action militaire de s'imposer en tant que Turquie comme un acteur incontournable, aussi que la Russie. Alors, la seule solution, c'est de mettre à table de négociation et de s'en sortir en essayant de respecter les intérêts de tous les pouvoirs. Il n'y a pas une seule clé à la Syrie et au problème des réfugiés.
Nelle Katharina Wissmann, comment évolue le débat en Allemagne? Évidemment, l'Allemagne, grande puissance économique, mais puissance militaire très faible, puissance politique relativement faible. Est-ce que ce qui se passe, les réfugiés, le terrorisme très présent, qui pourrait jour aussi atteindre l'Allemagne. Est-ce que la réflexion est en train d'évoluer? On sait bien, et c'est un des points faibles de l'Union européenne, que l'Allemagne est très réticente à intervenir militairement et politiquement sur les théâtres extérieurs.
J'aimerais bien revenir sur quelque chose que M. Fischer a dit tout à l'heure. Je pense que c'était très juste. Justement, tout ce qui se passe actuellement dans le pays de l'Est n'est pas sombre. C'est-à-dire, il y a aussi cette culture de bienvenue dans ce pays-là. Ça n'existe pas seulement en Allemagne. Et en même temps, l'Allemagne, c'est pas tellement... Enfin, tout n'est pas rose. Et là, j'aimerais bien reprendre le discours de Joachim Gauck qui parlait justement de l'Allemagne de la lumière. Helles Deutschland, et donc le Deutschland, l'Allemagne des ténèbres. L'Allemagne des lumières.
Le président allemand.
Le président fédéral, exactement. Justement, l'Allemagne de la lumière, c'est les Allemands qui vont à la gare pour accueillir les réfugiés, pour applaudir, pour amener de la nourriture, du jouet pour les enfants. Et puis vous avez aussi l'Allemagne des ténèbres, justement, vous avez plus en plus des attaques contre le centre d'accueil des réfugiés, qui ont pratiquement triplé depuis 2014. Vous avez un mouvement comme Pegida, européen patriotique contre l'islamisation de l'Occident.
Surtout en Allemagne.
Vous avez maintenant justement un changement quand même de l'opinion publique, qui était derrière Angela Merkel, mais qui est de plus en plus réticente face à l'arrivée des réfugiés. Du coup, un parti national conservateur comme l'AfD, Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne, a de plus en plus de succès, actuellement dans le sondage jusqu'à 10%, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas connu en Allemagne. Et en plus, après, bien sûr, maintenant, vous avez cette question de terrorisme qui s'ajoute dans une Allemagne où, déjà, la question de l'islam, tout cela, c'est difficile, c'est compliqué. Le débat est là, les Allemands sont très, très, très sceptiques quant à la place de l'islam en Allemagne. Donc, il y a plus que la moitié des Allemands qui pensent que l'islam est une menace pour le pays. Donc, il y a ce débat-là. Il s'ajoute, bien sûr, il y a cet amalgame-là. Tout de suite, après les attentats à Paris, il y avait le débat, il y avait l'AFD, Pegida, etc., qui ont dit, regardez, vous avez fait venir les terroristes, vous avez fait venir les réfugiés, ce sont des terroristes. Donc, il y a tout cela qui alimente actuellement le débat en Allemagne.
Alors, au-delà de l'émotion qui était très grande de la part des Allemands lorsqu'ils ont accueilli, en tout cas, les premiers réfugiés, c'était il y a quelques mois, on a l'impression que c'était il y a des années, tellement il s'est passé de choses depuis. Est-ce que la réflexion évolue du côté des dirigeants allemands? Alors, il y a évidemment la crainte de l'islam, et elle est partagée par tous les pays européens. C'est pas une exclusivité allemande qui est perçue quand même globalement par une menace par une grande partie des citoyens européens. Mais est-ce que la réflexion des Allemands, en tout cas des gouvernants allemands, des partis politiques allemands, évolue sur peut-être la nécessité de prendre son rôle à la hauteur de sa puissance économique dans le domaine politique extérieur, dans le domaine militaire?
Oui, bien sûr, ça évolue, mais l'Allemagne, enfin, il faut quand même le dire, voter par exemple quelque chose comme la mission actuellement en Syrie, ça passe parce que vous avez la grande coalition, vous avez la CDU, vous avez les SPD, et puis même une grande partie de Verts vont normalement.
Mais ça passe. Voter.
Mais ça passe actuellement parce qu'il y a quand même, enfin, il est quand même conscient qu'actuellement la menace de terrorisme est bien là. Et c'est pas seulement en France, c'est aussi en Allemagne. Enfin, l'Allemagne qui a eu éventuellement cette menace d'attaque contre le Stade Hanovre au moment où il y avait un match. Donc la conscience est bien là, mais c'est quand même un peu plus compliqué, bien sûr, qu'en France où quand même il y a plus de débats justement sur le fait d'intervenir à l'extérieur.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Christian Lequen, Nelly Katharina Wispan, Nico Popescu, Pavel Fischer. Et vous vouliez réagir, Christian Lequen?
Oui, les quelques sondages que j'ai vus faits en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup, montrent quand même que la population allemande est davantage prête à accepter aujourd'hui l'idée d'une intervention militaire qu'elle ne l'était au moment de la Libye en 2011, voire au mois d'août 2013, lorsque les Français ont eu cette velléité d'intervention qui finalement n'a pas eu lieu parce que les Américains et les Britanniques n'ont pas suivi. Donc on sent un petit mouvement quand même dans l'opinion publique allemande, mais vous avez raison de dire qu'il faut toujours analyser quand même l'histoire et que le rapport des Allemands à la guerre, c'est pas quelque chose de banal, hein, voilà, et ça a été transmis dans les générations par l'éducation, par l'école, etc. C'est un pays profondément pacifiste, voilà. Et puis deuxièmement, vous avez raison aussi, je crois, de dire qu'il y a des contraintes institutionnelles et que dans les démocraties parlementaires, surtout lorsqu'il y a des coalitions, ça demande plus de temps, les décisions militaires, que dans les pays comme la France, où vous avez un exécutif quand même relativement fort et capable d'engager des décisions militaires avec une décision prise par un tout petit nombre de gens.
Et effectivement, le président français, à l'inverse de la chancelière Angela Merkel, peut décider du jour au lendemain d'intervenir en Syrie, ce que ne peut évidemment pas faire la chancelière Angela Merkel. Alors, il faut quand même évidemment dire un mot important sur la frontière Schengen, l'avenir de la zone Schengen, du contrôle de la frontière extérieure. Pavel Fischer, comment on voit la zone Schengen, la frontière Schengen et le contrôle de la frontière extérieure? Alors, la République tchèque est un pays enclavé au sein de la zone Schengen. Comment se pose le débat à Prague autour de cette frontière extérieure de l'Europe? Est-ce qu'il faut garder la zone Schengen? Est-ce que c'est quand même important? Ou est-ce qu'il faut l'aménager? Et si on l'aménage, à quel moment elle disparaît?
Il faut noter au départ que le seul tronçon de la frontière Schengen à Prague se trouve à l'aéroport international de Ruzyně, qui s'appelle aéroport Václav Havel. C'est le seul endroit où nous sommes en contact avec l'espace extérieur. Donc nous sommes vraiment un pays enclavé qui a bénéficié justement de cette position, d'ailleurs, de par le passé, lorsqu'il s'agit de la protection des frontières Schengen. Les décideurs politiques à Prague ont trouvé le compromis et l'accord de montrer la solidarité et de solliciter des forces de l'ordre, et en particulier la police, pour aller renforcer la frontière extérieure de Schengen là, où ça faisait vraiment mal et où les gardes frontières étaient dépassés, c'est-à-dire dans certains pays comme la Slovénie ou la Croatie, etc. Donc c'est là où vous trouverez aujourd'hui les policiers tchèques. Mais je crois qu'il y a un phénomène qu'il faut quand même noter, parce qu'on débat non seulement de la sécurité, mais aussi des idées. Parce que les idées passent les frontières Schengen sans demander le permis. Et nous sommes intoxiqués par deux flux de propagande venant à la fois de l'Est et aussi du Sud, qui sont destinés à nos populations pour semer un peu le désordre, un peu la méfiance vis-à-vis des institutions démocratiques de nos pays, vis-à-vis de l'état de droit. Et je crois qu'il faut aussi savoir nommer le défi en ces termes, c'est-à-dire comment aider les Européens à retrouver une certaine capacité d'utiliser l'esprit critique en lisant ce qui se passe aujourd'hui, non seulement au sein même de l'Union Européenne, mais aussi à ses frontières et au-delà.
Nico, est-ce que vous voulez réagir?
Oui, je voudrais aussi ajouter un peu quelques nuances à cette question de Schengen. Pendant beaucoup de temps, on a entendu les attaques contre Schengen qui étaient surtout des attaques contre l'élargissement de la zone Schengen vers l'Europe centrale et de l'Est. Et on a vu maintenant qu'en effet, avec les terroristes et les attaquants de Paris, c'était pas l'Europe de l'Est qui les a abrités.
Alors, on peut rappeler qu'il y a eu des attentats terroristes en France bien avant l'existence de la zone Schengen et que ça n'a jamais empêché les terroristes d'arriver sur le territoire national.
Il faut diviser la question de Schengen de la question d'immigration de l'Europe de l'Est. Mais l'autre aspect du problème est qu'on exagère quand même ce sujet d'un Schengen quand on parle de terrorisme. Parce que même si on regarde les gens qui ont fait les attaques à Paris, c'était des citoyens français.
7 sur 9 étaient des Français.
Exactement. Alors ça, on ne peut pas résoudre avec n'importe quelle discussion ou réforme de l'espace Schengen. Alors si vous me demandez, on discute 80% de Schengen, mais la vraie discussion, c'est pas sur Schengen, c'est sur l'intégration de ces gens qui sont déjà ici, c'est sur la création d'emplois. Bien sûr qu'il y a une question culturelle, peut-être religieuse, mais il y a aussi une dimension économique de ce problème. C'est aussi la création d'emplois. Et Schengen, si vous voulez, doit être juste 20% de discussion. On se concentre sur pas le bon sujet. Schengen, c'est un sujet, mais c'est 20% du problème si on essaie de résoudre ou minimiser ce problème de terrorisme.
Alors néanmoins, la question de Schengen est un symbole pour tous les populistes. Et il y a des populistes pratiquement dans tous les pays européens, même maintenant un peu en Allemagne avec l'alternative pour l'Allemagne. Est-ce que Schengen peut tenir? Est-ce qu'on peut l'aménager? Et si Schengen disparaît, est-ce que c'est la petite pierre qui va faire écrouler tout l'édifice, Christian Lequen?
Oui, moi je pense qu'effectivement, on est obligé de remettre Schengen à l'agenda des réformes, je veux dire, compte tenu de ce qui s'est passé, parce que la politique l'impose. En même temps, je ne crois vraiment pas à la disparition de Schengen. Je pense que nous aurions besoin de plus de Schengen, c'est-à-dire de plus de coopération européenne, et aussi qu'on imagine ce que ça signifierait au quotidien pour les Européens qui se sont habitués maintenant à circuler librement, de remettre des frontières. Je ne suis pas sûr que ce soit socialement acceptable qu'il faille attendre 2 heures entre Liberec au nord de la République tchèque et la ville de Saxe qui est de l'autre côté, ou entre Kiel et Strasbourg. Moi, je pense qu'on s'est vraiment habitué aussi à l'idée que la libre circulation fait partie de nos valeurs. Mais j'aimerais revenir sur ce que disait Nico Popovic. N'oublions pas effectivement qu'il y a un faible lien entre les réfugiés et le terrorisme. Les jeunes gens qui ont fait des attentats, vous venez de le dire, sont des citoyens français, comme ceux qui avaient fait les attentats en 2005 à Londres étaient des citoyens britanniques. Et j'irais même plus loin. Aujourd'hui, on a peu d'études sociologiques sur la radicalisation, mais on se rend compte que parmi les jeunes radicalisés, nous avons du côté français au moins 30% d'entre eux qui n'ont aucun lien familial avec la culture musulmane, qui sont des convertis. C'est-à-dire que là, je rejoins un peu ce que disait Pavel Fischer sur l'importance de réfléchir à ce que sont nos sociétés, nos modèles de société. Ça veut dire qu'ils recherchent quelque chose d'alternatif à ce que nous vivons dans nos sociétés, qui est une espèce d'extrémisme, une sorte de transgression.
Vous voulez reprendre un peu les propos d'Olivier Roy qui dit c'est pas l'islam qui s'est radicalisé, c'est le radicalisme qui s'est islamisé.
Il a raison. Comme il y a 40 ans, on allait dans les communautés hippies fumer de la marijuana, maintenant on va à Daesh, sauf que les conséquences sont pas les mêmes, parce que quand on allait fumer de la marijuana, c'était love and peace.
Alors, là, c'est plus le cas. Néanmoins, la remise en cause du principe d'une zone de libre circulation de la zone Schengen, elle est posée par tous les partis politiques populistes en Europe. Il n'est pas exclu que cette zone Schengen soit remise en cause. Est-ce que ce serait le début de la fin, Christian Lequen?
Je pense que c'est l'intérêt de tous ceux qui sont effectivement à l'extrême de l'échiquier politique. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que Madame Le Pen, qui a été extrêmement prudente dans sa communication politique, à certains égards plus prudente peut-être que la droite classique en France, la seule chose qu'elle ait véritablement pointée, c'est le lien entre immigration et terrorisme, justement pour remettre en cause Schengen, hein, c'est-à-dire le contrôle des frontières nationales.
Ce qui est évidemment relativement paradoxal, parce que pour être peut-être plus efficace, évidemment les Européens, les défenseurs de l'Europe, c'est un argument qu'ils utilisent tout le temps, il faut, pour être efficace contre le terrorisme, il faut partager le renseignement européen, il faut gérer les réfugiés en commun, il faut donc paradoxalement plus d'Europe pour arriver au bout de cette crise, évidemment autour de cette table. J'imagine que tout le monde est à peu près d'accord. D'où peut venir le sursaut, Christian Lequen? Et je pose la question, si quelqu'un a une idée, d'où peut venir le sursaut?
On hoche la tête autour de cette table. Pavel Fischer, d'où peut venir le sursaut? Vous avez le droit de ne pas répondre à cette question. Hein.
Non. Je crois que le sursaut peut venir justement de la prise en compte du défi que nous avons devant nous. Si nous nous mettons devant les yeux le fait que les terroristes qui ont semé la violence étaient partis d'un réseau international qui ont agi à cheval entre plusieurs pays, peu importe les frontières, on peut aussi exagérer peut-être en disant qu'ils sont les premiers à bénéficier de la libre circulation. Ils sont les Européens de pratiquants. Et donc à nous maintenant, si le crime organisé, si les terroristes sont tellement bien outillés à travailler dans les pays de l'Union européenne, peut-être c'est à nous maintenant de convaincre nos opinions publiques que ce n'est pas moins de coopération, mais plus de coopération qu'il nous faut aujourd'hui, car sinon c'est vraiment l'affaiblissement et l'effritement de la construction européenne qui a quand même besoin de quelques pierres et de quelques retouches.
Christian Lecan a l'habitude de dire que l'Europe se construit dans la crise. Là, la crise, elle est réelle, elle est sérieuse, elle est grande.
J'aimerais bien que Pavel ait raison en disant que on pourrait convaincre notre opinion publique qu'il faut plus de d'Europe parce que les terroristes sont transnationalisés. Le problème, c'est que si on dit que les terroristes sont transnationalisés, à mon avis, la première réponse qui arrive, c'est plutôt s'ils sont transnationalisés, allons contre le transnational.
Il faut se replier sur eux.
Et donc c'est très difficile pour les hommes politiques aujourd'hui raisonnables de trouver le bon discours, hein, je trouve. Mais en tout cas, ce que les citoyens peuvent entendre quand même, c'est l'importance aujourd'hui de l'échange d'informations, l'importance de la coopération entre les polices, etc. Tout ça, ça passe quand même par l'Europe
par un renforcement de l'Europe.
Et c'est en le disant, à mon avis, de façon très très concrète, comme ça, très matérielle, qu'on peut réussir à gagner, je crois, les esprits.
Donc le sursaut est possible.
Mais je le trouve quand même très difficile en ce moment. Je suis un peu pessimiste sur l'Europe, je suis désolé. Mais...
Pas de voix optimiste autour de cette table, on va conclure cette émission sur cette note un peu pessimiste, mais qui est peut-être le constat d'une certaine réalité. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Nicolas Benita. Sur la page de l'émission RFI Carrefour de l'Europe, plein de choses, d'infos sur nos invités. Pour réécouter cette émission RFI.fr ou les applis mobiles et gratuites de RFI, sans oublier les réseaux sociaux bien sûr, Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Desesquels, où que vous soyez en Europe, ailleurs dans le monde, bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.